Par cet audio, je vous propose de poursuivre de quelque manière nos échanges, notre partage autour de la Bible que nous avons commencé il y a quelques semaines et que cette situation de confinement est venue interrompre. Cela ne nous empêche pas de continuer à nous intéresser à la Bible pour mieux comprendre la parole de Dieu, essayer de mieux la comprendre, pour mieux prier, pour mieux vivre comme un chrétien, comme croyant. Le sujet que j'aborde dans cet audio, je l'ai intitulé Quelques questions fondamentales sur le Pentateuque. Lors de la rencontre du mois de février, c'était la troisième rencontre. Nous avons juste abordé cette question en la première étape, la question littéraire du Pentateuque sous forme d'exercice pratique. Je vous repropose cet élément complété par les autres étapes que j'avais prévues pour ce jour-là. Mais le temps nous a manqué. Bon, maintenant que nous sommes confinés, que nous avons du temps, peut-être que chacun pourrait dédier le temps qu'il lui faut pour refaire un peu ce parcours. Après donc la question littéraire du Pentateuque, nous nous intéresserons en deuxième lieu à l'origine du mot Pentateuque et à son usage. En troisième lieu, nous examinerons les possibilités de regroupement des livres, non seulement en Pentateuque, mais aussi en Tétrateuque, en Hexateuque ou en Énéateuque. Le quatrième point concernera le Pentateuque, les raisons d'un choix. Et enfin, en cinquième lieu, nous nous pencherons sur la théorie documentaire. Premier point donc, la question littéraire du Pentateuque. Il s'agit en fait d'un exercice pratique visant à toucher du doigt, dans la mesure du possible, les questions littéraires que soulève le Pentateuque. Qu'il y ait un problème littéraire est un fait indéniable pour qui se penche attentivement sur les textes. Dès les premières pages de la Genèse, on trouve des doublets, des répétitions et des discordances. Deux récits des origines qui, malgré leurs différences, racontent en double exemplaire la création de l'homme et de la femme. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2. Verset 4. Et Genèse 2, verset 4 jusqu'au chapitre 3, verset 24. Deux généalogies de Caïn-Cainan. Genèse chapitre 4, verset 17 et suivant. Et chapitre 5, verset 12 à 17. Deux récits combinés du déluge. Dans les chapitres 6, 7 et 8 de la Genèse. Dans l'histoire patriarcale, il y a deux présentations de l'alliance avec Abraham, Genèse 15 et Genèse 17. Deux renvois d'Agar, chapitre 16 et chapitre 21. Trois récits de la mésaventure de la femme d'un patriarche en pays étranger. Genèse 12, versets 10 à 20. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 26, versets 1 à 11. Probablement deux histoires combinées de Joseph et de ses frères dans les derniers chapitres de la Genèse. Il y a ensuite deux récits de la vocation de Moïse. Exode 3, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 17, et plus loin, au chapitre 6, verset 2, jusqu'au chapitre 7, verset 7. Deux miracles de l'eau à Meriba, Exode 17, verset 1 à 7, et Nombre 20, 1 à 13. Deux textes du Décalogue, Exode 20, verset 1 à 17, et Deutéronome 5, verset 6 à 21. Quatre calendriers liturgiques, et on pourrait citer bien d'autres exemples. Surtout, la répétition des lois dans les livres de l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. À cela, on peut ajouter le fait que les noms propres ne sont pas toujours unifiés. Le nom du beau-père de Moïse, par exemple, il est appelé tantôt Jéthro, Exode 3.1, Exode 4.18, ou Réuel, le Madianite, Exode 2, verset 18, ou même encore Obab, le Kénite, dans le livre des Juges, au chapitre 1, verset 16. On sait aussi que la montagne sainte, la montagne de l'Alliance, est tantôt désignée comme le mont Sinaï, Exode 19, 11 et 18, Lévitique 7, 38, Nombre 3, 1. Tantôt, il est connu comme la montagne de l'Horeb, Deutéronome 1, 6, 4, 15, 5, 2, etc. Le nom de Dieu lui-même présente des variantes. Tantôt, on parle de Yahvé, tantôt, Dieu est appelé Elohim. Voilà quelques éléments que l'on peut percevoir dans le texte et qui peuvent poser problème, qui peuvent en tout cas amener à s'interroger. Nous y reviendrons pour voir les hypothèses qui ont été faites pour essayer d'expliquer ce fait littéraire. Ceci dit, nous passons au second point, origine du mot Pentateuque et son usage. Quand on dit Pentateuque, on pourrait penser au Pentagone. Bon, si ça vous dit. En fait, c'est pour évoquer un peu l'origine et la signification de ce mot. Le mot Pentateuque est composé du grec penta, qui signifie cinq, et théokos, qui signifie généralement instrument, outil, ustensile. Au départ, l'ustensile désignait la custode cylindrique contenant les livres sous forme de rouleau, puis, par métonymie, le contenu lui-même, le rouleau donc. Pentateuque signifie donc cinq livres ou mieux cinq rouleaux. Ce qu'à l'origine la langue hébraïque désignait par les cinq cinquièmes de la loi, de la Torah. Le Pentateuque est la première partie de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible hébraïque. Il contient les cinq premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. dans le tableau que je vous propose et que vous avez sous les yeux, j'espère, on voit comment en français on désigne les cinq premiers livres de la Bible. Ensuite, il y a la colonne du grec. Puis, la troisième colonne, c'est l'hébreu. Et la dernière colonne, dites un peu, disons, le contenu de ces livres-là. La Genèse, par exemple, est calquée sur le grec « Genesis ». Tandis que l'hébreu désigne ce livre-là par « Bereshit », c'est-à-dire « au commencement ». Il s'agit donc des origines du monde, de l'homme et du peuple d'Israël. Le livre de l'Exode, comme on le dit en français, se calque sur le grec « exodos ». Tandis que l'hébreu, au départ, ne parlait pas d'exode, de sortie, mais l'hébreu disait « shemot », les noms. Voici les noms. Et le contenu, c'est donc la sortie d'Égypte. Le Lévitique s'aligne sur le grec Leviticos, tandis que la Bible hébraïque appelle ce livre-là Vaïkra, et il appela Moïse. Le Lévitique a comme sujet les prêtres, les Lévites, les sacrifices, les rites et les règles liturgiques. Ensuite, les nombres traduisent fidèlement le grec arithmoi. On connaît tous l'arithmétique, la science des nombres. Tandis que l'hébreu désignait et désigne toujours ce livre par Bemidbar, dans le désert. Le Seigneur parla à Moïse dans le désert. Les nombres sont en fait comme une série de généalogies et de listes de tribus, de clans et de familles. Et enfin, le Deutéronome, qui, une fois encore, rend d'une façon littérale, pour ainsi dire, le grec Deutéronomion. Tandis que l'hébreu désigne ce livre par Devarim. Voici les paroles que dit Moïse. Bon, le contenu a été défini un peu comme une deuxième loi, à tort ou à raison. On y reviendra le temps venu. Et depuis la traduction par la Septante, les cinq livres sont désignés par leur contenu général, comme on le voit. Leur titre vient donc du grec. Au contraire, l'hébreu continue à les désigner par un de leurs premiers mots. Le mot peut-être le plus significatif, un peu comme pour les encycliques, les documents conciliaires, ou plus proche de nous, certains cantiques bibliques. Le Magnificat, par exemple, ce cantique que nous connaissons bien, par lequel Marie dit sa louange à Dieu lors de la visitation. Nous en venons ainsi au troisième point de cette rencontre. Faut-il parler de tétrateuque, de pentateuque, d'hexateuque ou d'énéateuque? Les cinq livres du pentateuque se présentent aujourd'hui comme un ensemble bien défini et définitif. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Ou en tout cas, ces livres ont-ils toujours été considérés ainsi? Voyons d'abord l'hypothèse d'un hexateuque, un ensemble de six livres. L'antique tradition qui limite à cinq les livres de la loi a été remise en question par des chercheurs. Et pourquoi? Un texte bien connu qu'on désigne comme le petit credo historique d'Israël va des pérégrinations d'Abraham dans le livre de la Genèse, au don de la terre, à la conquête de la terre dans le livre de Josué. Je dis bien dans le livre de Josué. Et ce texte qu'on trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 26, versets 5 à 9, dit ceci. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Dans ce texte, nous voyons qu'il est question des pères. Et les pères, bon, on remonte évidemment jusqu'à Abraham, qu'on trouve dans le livre de la Genèse. On passe par l'Exode, la marche au désert, cela est sous-entendu, jusqu'à l'entrée en Terre Sainte, telle qu'elle est rapportée sous forme de conquête, hein, il faut bien le dire, dans le livre de Josué. C'est dire que le sixième livre de la Bible, le livre de Josué donc, est à rattacher selon une certaine logique aux cinq premiers. D'où l'idée d'un hexateuque, six livres qui tiennent ensemble au lieu simplement de cinq, ceux du Pentateuque. Il y a aussi l'hypothèse d'un tétrateuque, quatre livres. Au lieu de rajouter le livre de Josué au Pentateuque, certains autres chercheurs ont proposé d'en exclure le Deutéronome. Pourquoi? Le Deutéronome constitue la préface de l'histoire deutéronomiste que l'on trouve dans la Bible à partir du livre de Josué jusqu'au deuxième livre des rois. Deutéronome au chapitre 1, 2 et 3 répète des choses connues du lecteur de Nombre, ce qui se comprend seulement si le Deutéronome a été conçu comme le début d'une œuvre qui se prolonge dans les livres historiques. Josué, Juges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi et 2 rois. Deutéronome 1 à 3 n'aurait aucun sens si le Deutéronome était vraiment la conclusion d'une œuvre qui comprenait le livre des Nombres. L'histoire deutéronomiste doit être lue à la lumière du Deutéronome. Par exemple, Josué peut conquérir la terre parce qu'il est fidèle à la loi de Moïse. Josué 1, versets 7 et 8, chapitre 23, verset 6. Le peuple infidèle est puni par le Seigneur de la perte de la terre. 2 Rois 17, verset 13 et verset 19. Selon cette hypothèse du tétrateuque, le pentateuque serait né quand les deux ensembles, celui qui va du livre de la Genèse jusqu'au livre des Nombres d'une part, et le Deutéronome, d'autre part, avec l'histoire deutéronomiste, ont été réunis en une seule grande œuvre. C'est là que le Deutéronome aurait été rattaché aux quatre premiers livres. Mais quand on en vient aux hypothèses, la tendance c'est que ça se multiplie. C'est ainsi que d'autres chercheurs encore ont proposé de voir plutôt les 9 premiers livres comme un ensemble, d'où le mot et l'hypothèse de l'Énéatique. Énéatique signifie 9 rouleaux. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué 1 et 2 Samuel, pris comme un livre, 1 et 2 Rois. Les deux livres de Samuel ainsi que les deux livres des Rois sont considérés comme un seul. Quelques exégètes pensent que l'ensemble des 9 livres, ensemble qui va de la Genèse à 2 Rois, doit être pris comme une seule œuvre littéraire qui commence par la création du monde et s'achève par l'exil à Babylone avec la terre pour thème central au départ, terre promise au patriarche, la Genèse. Terre vers laquelle le peuple chemine à travers le désert, Exode et Nombre. Terre conquise sous la conduite de Josué. C'est donc le livre de Josué. Terre défendue par les juges. Terre qui s'organise en royaume avec David et Salomon. Terre perdue à l'exil babylonien. Si l'hypothèse d'un énéatique tient au niveau idéologique, elle ne trouve pratiquement pas d'appui au niveau littéraire. Après ce bref tour, nous arrivons au quatrième point, le Pentateuque, les raisons et à la portée d'un choix. C'est vrai qu'il y a d'autres possibilités ou d'autres éventualités de regroupement, mais ce n'est pas pour rien que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament ont été regroupés et qu'on peut encore les maintenir aujourd'hui comme un tout. Par rapport aux autres, les 5 premiers livres présentent une particularité qui apparaît bien en Deutéronome 34, 10 à 12. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que Yahvé connaissait face à face. Que de signes et de prodiges Yahvé lui fit accomplir au pays d'Égypte, contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Quelle main puissante, quelle grandeur, quelle terreur, quelle grande terreur Moïse avait mise en œuvre aux yeux de tout Israël. Là se trouve affirmé le rôle et la place unique de Moïse dans l'histoire d'Israël. Place et rôle dû à sa relation unique, directe avec Dieu. Nombre 12, 6 à 8. Par ailleurs, la sortie d'Égypte s'impose comme l'événement fondamental, fondateur d'Israël, qui, en tant que peuple, est plus ancien que la monarchie et la conquête de la terre promise. Il en découle qu'il faut distinguer le temps de Moïse, qui est documenté dans les livres qui vont de la Genèse au Deutéronome, le Pentateuque donc, et tout ce qui vient après. Le Pentateuque, la loi, est la norme ultime à laquelle se réfèrent tous les autres livres. Ainsi, même la monarchie se trouve subordonnée à la loi. Et l'histoire de David et du prophète Nathan, en 2 Samuel, chapitre 12, l'illustre bien. De plus, le Pentateuque se présente en grande partie comme une vie de Moïse qui débute avec sa naissance en Exode et se conclut avec sa mort en Deutéronome 34. Cependant, il s'agit essentiellement d'une vie de Moïse au service de Yahvé et du peuple d'Israël. Verrons-en maintenant au cinquième point, la théorie documentaire. Comment peut-on expliquer l'état textuel actuel du Pentateuque, en particulier les phénomènes littéraires signalés plus haut dans le point 1, la question littéraire du Pentateuque? La théorie documentaire est une explication, une hypothèse qui a fait autorité au siècle dernier. Même si aujourd'hui elle est franchement battue en brèche, il est bon d'en avoir une idée globale. Pour schématiser en deux mots, les données bibliques ont commencé par circuler sous forme de traditions orales qui furent ensuite mises par écrit sous forme de documents indépendants à des époques diverses et dans des milieux également divers. Ces documents furent enfin graduellement combinés pour donner un texte plus ou moins suivi. Voyons donc quelques détails de cette théorie documentaire. En distinguant dans la Genèse deux documents à partir de la diversité des noms divins, Yahvé et Elohim, Astruc donne naissance en 1753 à l'hypothèse documentaire qui connaît pas mal d'évolutions jusqu'à sa forme classique, J-E-P-D, sous la plume de Wellhausen, qui a vécu de 1844 à 1918. J pour Yahviste, E pour Elohiste, P pour sacerdotal, pensé à prêtre, et D pour deutéronomiste. Tout d'abord, le document Yahviste. Ce document daterait du début de l'époque royale, au 9e siècle avant notre ère. Le Yahviste est un écrivain du royaume de Juda au sud, développant une idéologie monarchiste. Des textes comme Exode 2, versets 1 à 10, ou Genèse 18 peuvent lui être attribués. Les personnages de Moïse et d'Abraham, médiateur choisi par Dieu, entre Dieu et les hommes, représentant dans ce récit des figures royales. Le Yahviste est un érudit et un sage qui sait apporter des réponses aux problèmes essentiels qui se posent aux hommes de son temps. Il le fait à travers des récits écrits avec un art consommé, dont l'apparente naïveté ne doit pas tromper le lecteur. Il est le premier à composer une vaste synthèse à partir de la création de l'homme et poursuit son récit jusqu'à Moïse. Le style du Yahviste est concret, vivant, imagé, émaillé d'anthropomorphisme. Un anthropomorphisme, c'est une manière de parler de Dieu en lui prêtant, disons, une figure, une physionomie, une morphologie, si on veut, humaine. On parle de Dieu qui souffle, par exemple, dans les narines de l'homme qu'il avait modelé. Il s'agit là, bien évidemment, d'un anthropomorphisme. Voilà, brièvement dit, pour le Yahviste. Le deuxième document est le document Elohiste. Il proviendrait du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Ce royaume, séparé du royaume de Juda après Salomon, tombera sous les coups de l'Assyrie en 722 avant notre ère. Datant du 9e siècle, le document Elohiste est réservé vis-à-vis de la monarchie et reprend des thèses théologiques qui se rapprochent de celles des prophètes du Nord, comme Amos ou Osée. Centrée sur les tribus du Nord, la tradition héloïste insiste sur la notion de l'héritage promis à Abraham et conquis par Josué. Elle a un sens moral plus poussé, un souci plus profond des exigences morales. Elle insiste sur la spiritualité de Dieu, use beaucoup moins fréquemment d'anthropomorphisme, fait intervenir Dieu à travers des songes. À la suite de la chute de Samarie en 722 donc, et de l'arrivée à Jérusalem d'exilés porteurs de traditions du Nord, J et E, le yahviste et l'héloïste, fusionnent, donnant le document pré-exilique jéhoviste. Le troisième document de la théorie documentaire, c'est le deutéronomiste. Le Deutéronome apparaît sous le règne de Josias à la fin du 7e siècle. La tradition deutéronomiste est caractérisée par l'attachement inconditionnel à l'alliance et à la loi, aux préceptes et aux décrets reçus de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. C'est de la fidélité à la loi et à l'alliance que dépend le bonheur du peuple élu. Le style du deutéronomiste est volontiers solennel, chaleureux, ample, répétitif. Et enfin, quatrième document de l'hypothèse, la théorie documentaire, le sacerdotal P. Le document sacerdotal est considéré comme un récit indépendant dont la théologie est spécifique et la source narrative serait représentée par le document jéhoviste. Ce document aurait été rédigé avant l'exil à Babylone, dans les milieux des prêtres déportés, 6e siècle avant Jésus-Christ, puis enrichi de suppléments législatifs après l'exil. Son style privilégie une certaine sobriété, mais aussi le goût des chiffres, des généalogies, des listes, ainsi qu'une prédilection pour tout ce qui relève du culte. Voilà de façon schématique les quatre documents de la théorie documentaire. Il faut le dire, dès le début, l'approche historico-critique du Pentateuch, et en particulier la théorie documentaire, ont rencontré beaucoup de résistance de la part de l'Église catholique, qui finit tout de même par s'y ouvrir. Confère par exemple les introductions de la Bible de Jérusalem dans les années 50-60. Mais quelques décennies plus tard, force est de constater que la théorie documentaire, battue en brèche, ne subsiste qu'à l'état de ruine ou de vestige. Toutes les datations proposées au départ ont été chamboulées et ramenées la plupart du temps à l'époque exilique ou post-exilique. La délimitation de diverses sources, qui a rarement fait l'unanimité, est remise en cause, jusqu'à réduire certaines de ces sources, telles l'héloïste, à l'état de fantôme. C'est pratiquement inexistant, pour ainsi dire. Au fond, ce sont les fondements mêmes, les présupposés de la théorie documentaire et de l'approche historico-critique qui ont été ébranlés. Comme l'écrit Jean-Louis K., l'hypothèse documentaire se trouve ainsi au banc des accusés. Il n'est pas jusqu'à l'exégèse historico-critique elle-même qui ne soit mise en accusation par certains. Comprendre un texte n'implique pas nécessairement l'explication de son origine, ainsi que le voulait la critique littéraire ou critique des sources depuis le temps de Wellhausen. Par ailleurs, la critique littéraire s'accompagne habituellement du présupposé que les sources ou les éléments les plus anciens sont les meilleurs, Et tout ce qui est plus récent est facilement déprécié comme ajout postérieur. Rechercher les sources, les origines et la genèse d'un texte est une étude d'ordre historique. L'étude littéraire, quant à elle, fait abstraction de l'histoire du texte et de son auteur ou de ses auteurs pour l'expliquer tel qu'il se présente dans sa version finale, dans sa forme canonique, pour saisir la beauté d'une œuvre architecturale. La basilique Saint-Pierre de Rome, par exemple, ou la cathédrale Notre-Dame de Paris, faut-il la démembrer pour voir les éléments qui la composent et les étapes de la composition, ou faut-il plutôt la considérer telle qu'elle est dans son achèvement? De nos jours, la tendance de l'exégèse est plutôt de tenir compte évidemment des acquis de l'exégèse historico-critique dans la mesure où cela est vraiment utile, mais surtout de considérer le texte final, le texte canonique, le texte tel qu'il se présente et qui, pour nous chrétiens, pour nous croyants, est parole de Dieu. Ce n'est pas l'histoire de la composition ou les étapes qui ont précédé la composition qui ont le plus d'importance, mais c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui à travers les textes que nous avons sous la main. C'est cela qui est le plus important. Je vous remercie.